Bien, alors, la dernière fois, j'avais essayé donc d'installer un peu un contexte problématique pour essayer de comprendre quel intérêt matériel pouvait avoir pour nous aujourd'hui. J'avais suggéré à partir de là un certain nombre de choses sans trop les justifier, mais pour l'instant, pour déjà ouvrir un certain nombre de perspectives. Deux choses à retenir peut-être de ce que je vous proposais la dernière fois. La première donc perspective que je voulais engager dans ce cours était de voir si dans le contexte d'une pensée d'une réappropriation du politique, la vertu pensée par Machiavel pour le prince pouvait être transposée donc, à la définition d'une vertu politique citoyenne et si cette vertu machiavélienne pouvait nous aider à repenser cette vertu citoyenne. Donc c'est à ça que je voudrais amener petit à petit dans les quatre séances de ce mois de mars. Et pour penser ça, ce que je vous avais proposé, c'était de montrer que d'abord il faut comprendre ce qu'est la vertu chez Machiavel, si on veut essayer de penser cette transposition. Et cette vertu de Machiavel, elle était essentiellement, enfin c'était la perspective de lecture que je vous proposais, liée à une réflexion sur ce qui fonde le pouvoir. Et cette question de la fondation et du fondement, justement, la perspective de lecture que je vous avais proposée, donc j'avais écarté une lecture immorale de Machiavel, écarté également une lecture amorale et réaliste, mais ça il va falloir que je justifie davantage, c'est ce que je vais commencer à faire aujourd'hui, pour essayer de montrer qu'on ne pouvait penser la vertu chez Machiavel sans penser l'entrelacement de la fondation qui est liée à une question de fait et du fondement qui est lié à une question éthique. Et c'est ce type de lecture-là que je vais essayer de justifier davantage aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai apporté mon livre, donc je vais beaucoup revenir au texte pour vous montrer un certain nombre de choses dans l'œuvre même, vous en montrer l'étrangeté, parce qu'elle est étrange, les contradictions aussi, et à partir de cette étrangeté et de ces contradictions, voir ce que ça peut nous permettre de penser sur la vertu chez Machiavel. Et le but du cours aujourd'hui, c'est de s'intéresser essentiellement au couple vertu-fortune, qui structure l'ensemble du prince et même de la pensée politique de Machiavel, et de penser plus précisément à partir de là ce que j'ai appelé la figure du fondateur. Alors, en quoi consiste donc cette vertu de Machiavel ? Avant de chercher à problématiser, à nuancer, à voir les contradictions, il faut voir déjà ce qui est posé explicitement et de manière très forte par Machiavel dans Le Prince. La vertu politique consiste essentiellement en une chose pour lui, avoir la capacité de s'adapter aux fluctuations de la fortune, c'est-à-dire, pour l'instant on va le définir comme ça, après on y reviendra, les différentes contingences des relations humaines et de la réalité en général. Une vertu, donc, qui doit faire face à la fortune, et pour ça, je vais me référer d'abord, essentiellement, pas à l'ensemble du prince, mais si vous voulez commencer déjà même à avoir une lecture un peu problématique du prince, vous pouvez commencer par le chapitre 25, qui est le chapitre où est expliqué de manière un peu prolongée le rapport entre la vertu et la fortune. Mais je vais déjà vous donner un certain nombre d'éléments généraux sur cette vertu. Capacité d'adaptation. Qu'est-ce qu'il faut pour s'adapter en politique, s'adapter aux différentes situations, s'adapter aux différentes oppositions, aux différentes résistances qu'on peut rencontrer pour maintenir le pouvoir. Là est le problème de l'adaptation. Eh bien, la première chose pour Machiavel, ça c'est absolument indispensable, ça revient tout le temps, c'est ce qu'il appelle les bonnes armes. Pour être vertueux, il faut d'abord être armé. C'est essentiel. Parce que c'est le pouvoir, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où on veut prendre des décisions, voire imposer des décisions, il faut avoir la puissance de le faire. Et pour ça, il faut être armé. Je vous cite Machiavel, puisque j'ai dit que j'allais beaucoup revenir au texte ce soir. Début du chapitre 14 du Prince. Un prince doit donc n'avoir d'autre objet, ni d'autre pensée, ni prendre autre chose pour son art, hormis la guerre et la discipline de celle-ci, parce que celle-ci est le seul art qu'on attende de qui commande, et il est d'une telle vertu qu'il maintient non seulement ceux qui sont nés princes, mais maintes fois, il fait s'élever les hommes de fortune privée à ce rang. Les bonnes armes, c'est les chapitres 12 et 14 du Prince, pour vous situer aussi un peu dans l'œuvre, qui sont essentiellement consacrés à la question des armes. Pourquoi cette question des armes est absolument essentielle pour Machiavel ? Parce que même si on parle d'éthique du pouvoir, même si on parle de loi, la question des armes est toujours primordiale. Je vous dis pourquoi. Enfin, 105, c'est dans le chapitre 12. Les principaux fondements qu'ont tous les États, les nouveaux comme les vieux, sont les bonnes lois et les bonnes armes. Et parce qu'il ne peut y avoir de bonnes lois là où il n'y a pas de bonnes armes, et que là où il y a de bonnes armes, il convient qu'il y ait de bonnes lois, je renoncerai à raisonner sur les lois et je parlerai des armes. Donc, les armes sont l'aspect absolument fondateur de la vertu politique. Il faut être armé, il faut être puissant. Simplement, ce n'est pas qu'une question de puissance, être armé dans la vertu. C'est aussi, les bonnes armes conditionnent tous les autres traits de la vertu qui sont, je vais y revenir, la capacité d'anticipation, la lucidité sur les circonstances, l'impétuosité et l'audace, et, point fondamental, la maîtrise de l'apparence. Tous ces aspects-là de la vertu sont conditionnés sans exception, tous sans exception, et je vais vous le montrer, par le fait d'être armé. Pourquoi ? Parce que, à partir du moment où je vais y revenir, où vous anticipez un mal latent dans la vie politique, il faut avoir la puissance de l'éliminer d'emblée. Parce que être armé, c'est aussi ce qui vous permet d'être impétueux, d'avoir une action impétueuse quand ça devient nécessaire. Et parce que les bonnes armes, c'est aussi ce qui assure, non seulement auprès du peuple, mais aussi auprès des militaires que vous dirigez, votre renom. Et le mauvais renom est ce que doit fuir absolument tout prince. J'y reviendrai aussi. Mais déjà, les bonnes armes, je l'expliquerai, conditionnent tous ces aspects-là. Elles sont aussi, dit Machiavel à un moment dans Le Prince, la condition de la liberté d'un État. Alors, cette question, bien sûr, le prince est un ouvrage écrit dans un contexte de guerre permanente, et cette question d'être armé, d'être puissant aussi bien dans les faits mais dans l'image, on pourrait dire que c'est un problème qui se pose uniquement chez Machiavel, puisque je me permets un certain nombre d'allusions politique actuelle. La semaine dernière, j'ai parlé à la fois du NPA, de l'UMP, du Front National, pas tellement des centristes. Donc je vais prendre des exemples centristes. aujourd'hui. La question d'être armé. Regardez l'importance pour des personnages politiques comme François Hollande et François Bayrou de la question de la puissance. François Hollande comme François Bayrou ont un programme politique, mais sur quoi sont-ils attaqués? Prenons l'exemple de François Hollande. Il a un programme dès les primaires du Parti Socialiste, par exemple. C'est la gauche molle, c'est... on lui a reproché de ne pas avoir le charisme supplémentaire pour... nécessaire pour aller faire face à Angela Merkel pour les traités européens. Il est accusé d'un certain nombre de surnoms, y compris dans son propre parti, hein, les Fraises des Bois, Flamby, etc., etc. Pourquoi je vous parle de ça? François Bayrou aussi, on dit qu'il... Enfin, justement, il joue beaucoup son image là-dessus dans la campagne actuelle. Il revient beaucoup sur les questions de virilité de décision de... En ce moment, il joue beaucoup sur cette image-là. Tous ces gens ont un programme, mais regardez sur à quoi on s'est attaché. Uniquement à l'impression physique qu'ils dégageaient. Leur impression physique laissait penser qu'ils n'étaient pas armés pour faire face. L'image est fondamentale. Quelle est la première chose qu'on a dit sur François Hollande? Il a maigri. Les médias ont validé ça. L'image est... Mais pourquoi l'image est absolument fondamentale? Ça, j'en parlais aussi la dernière fois. Parce qu'elle a une efficacité politique réelle. Réelle. Bien, cette question de la puissance, en tout cas, j'y reviens, il faut non seulement être armé factuellement, c'est-à-dire avoir les moyens d'imposer vos idées politiques, de les imposer, de les faire naître dans l'institution, mais en même temps aussi avoir suffisamment d'armes pour avoir l'image de quelqu'un capable de décider et de diriger. Bref. Premier point, donc, les bonnes armes. Deuxième point fondamental de la vertu, la capacité d'anticipation et de lucidité. Alors ça s'est développé en particulier dans un chapitre et de manière assez longue et à travers une métaphore que vous avez sans doute aperçue qui est celle du médecin. Chapitre 3 du Prince. La notion de vertu dans le chapitre 3 est associée donc à la médecine, au remède. Il faut savoir appliquer des médecines fortes, énergiques, remèdes, remédier au désordre. Et ce qui marque d'emblée, je vous laisserai lire, c'est que cette métaphore médicale est tout de suite liée à la capacité d'action aussi. Donc elle est conditionnée par l'art de la guerre. Être un bon médecin, du point de vue de l'État, c'est déjà aussi être capable de choyer ou anéantir d'emblée. C'est-à-dire d'anéantir tout de suite le mal. Donc il faut être armé pour ça, encore. Mais il y a d'autres choses. Quelle est la capacité du médecin? La capacité essentielle pour Macaulay, c'est d'être capable de repérer dans les symptômes les plus infimes, les plus masqués, la source possible d'un mal futur. Je vous cite Machiavel, chapitre 13. Les hommes commencent une chose et comme elle a bon goût, ne se rendent pas compte du poison qui est en dessous, comme je l'ai dit plus haut, au chapitre 3, à propos des fièvres psychiques. Par conséquent, celui qui, dans un principal, ne connaît pas les mots quand ils naissent, n'est pas vraiment sage, et cela est donné à peu. Donc, cette capacité d'anticipation est essentielle. Alors, il y a autre chose, là on va, pour l'instant on n'est pas vraiment dans l'argumentation, mais cette métaphore elle est importante pour comprendre beaucoup de choses. Le médecin, pour Machiavel, c'est plusieurs choses. C'est donc celui qui est capable, qui est lucide, qui est capable de voir très tôt les causes d'un mal latent. Mais, comme chez le médecin, cette identification du symptôme d'un mal latent, elle est indissociable d'un remède immédiat. Il y a une phrase célèbre de Machiavel, dans le chapitre 15, je crois, qui dit, enfin, je ne vais pas la retrouver, mais je crois que le chapitre 15, Machiavel dit, le peuple juge essentiellement par les yeux, très peu d'hommes sont capables de toucher, de sentir. Très peu d'hommes savent juger avec le toucher. Or, justement, le médecin, pour Machiavel, c'est celui qui a non seulement les yeux, et donc qui identifie un mal latent qui n'est pas encore présent, mais qui d'emblée aussi est capable d'avoir un effet, de voir l'aspect clinique des choses, de sentir les choses, de les palper, et donc tout de suite d'être tourné vers l'action. Et donc l'identification d'un mal est absolument indissociable pour Machiavel d'une action immédiate pour remédier à ce mal et radicale, choyer ou anéantir. Alors, continuons à filer cette métaphore du médecin, parce que là aussi, elle va nous permettre de comprendre un autre aspect de l'anticipation et de la lucidité nécessaire pour la vertu. Il faut être capable d'anéantir le mal à sa source, certes. Mais un médecin ne fait pas que ça. Comment il peut agir? Bien sûr, il peut agir en éliminant tout de suite le mal. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, en médecine, on peut utiliser la présence d'une bactérie ou d'un virus pour éliminer une autre bactérie ou un autre virus. Donc parfois, il arrive qu'un mal présent et identifié, il faille le flatter un peu, le laisser se développer un peu. Pourquoi faire ? Pour créer un rapport de force avec un autre mal présent dans l'état. Et donc, la qualité du médecin, c'est de savoir gérer les humeurs, comme on disait au 17e. Les humeurs, c'est les différentes, je sais pas comment on peut dire, c'est l'humeur au sens de la mauvaise humeur, mais c'est aussi les humeurs au sens de différents flux qui traversent le corps, si on peut dire. Et donc il faut savoir gérer ces rapports de force, savoir utiliser, anéantir un mal qui vraiment est destructeur pour l'état, l'anéantir tout de suite, mais parfois aussi flatter un mal, le laisser se développer un peu pour créer un rapport de force qui va créer l'équilibre dans l'état. Donc, anticipation, d'une part, mais lucidité aussi sur les différentes forces en présence. Pourquoi ? Parce que la gestion politique, maintenir la stabilité de l'État et rester au pouvoir, c'est essentiellement gérer des rapports de force en fait. Troisième aspect de la vertu, l'impétuosité et l'audace. Alors, la vertu, je vous disais, de façon générale, c'est une capacité d'adaptation. Il faut être capable de faire face à n'importe quelle situation de la fortune. Or, dans la vie politique, dit Machiavel, il existe des situations qui exigent parfois d'être patient, froid, calme, calculateur. Et d'autres situations qui exigent au contraire, selon la qualité des temps, dit-il, une réaction impétueuse, immédiate, impulsive, mais radicale. Et donc, quel est le trait de caractère qu'il faut absolument avoir pour Machiavel? Il dit ceci, je vous avais rappeler cette métaphore machiste du chapitre 25 sur la question du rapport entre la vertu et la fortune. Je cite. Je juge en revanche ceci, qu'il est meilleur d'être impétueux que circonspect. Circonspect, c'est la prudence et l'attente du calcul froid. Parce que la fortune est femme, et il est nécessaire de la battre et de l'affronter quand on veut la soumettre. Et l'on voit qu'elle se laisse vaincre davantage par cela que par ceux qui procèdent froidement. Et c'est pourquoi, comme femme, elle est toujours amie des jeunes, parce qu'ils sont moins circonspects, sont plus féroces, et la commande avec plus d'audace. Chapitre 25. Alors, pourquoi Machiavel dit-il que il est extrêmement d'avoir cette capacité d'impétuosité? Et pourquoi c'est mieux que d'être circonspect? Ça, il explique dans un autre passage. Quand vous êtes d'un naturel impétueux et impétueux et impulsif, il est facile, selon Machiavel, d'apprendre à devenir, si les circonstances l'exigent, d'apprendre à devenir circonspect, d'apprendre à devenir plus patient, plus prudent. Ce passage-là est aisé à faire. En revanche, quand vous êtes d'un naturel circonspect, devenir impétueux et radical dans vos réactions est beaucoup plus compliqué. Et donc, il est préférable pour un prince, dit Machiavel, il est toujours préférable d'agir avec impétuosité. Si vous avez une hésitation, si vous êtes en train de tergiverser, et si ça dure trop, soyez radical. Pourquoi ? Parce que le rapport à la fortune, justement, exige toujours, selon Machiavel, de faire violence quelque part. Et de ce point de vue-là, je vous expliquerai enfin, pourquoi quand on parlera de la fortune, plus précisément. Mais en politique, il faut savoir faire violence. Et le caractère impétueux est mieux pour cela que le naturel froid et calculateur. Dernier point enfin de la vertu, tout ça c'est explicite dans le texte, mais il faut quand même que je le catalogue un petit peu, que j'ai appelé la maîtrise de l'apparence. Alors ça, dans le prince, c'est essentiellement les chapitres 15 à 19, à peu près. 20 aussi, dans une certaine mesure. Dans ces chapitres, Machiavel analyse toutes les qualités que le prince doit non pas avoir, mais paraître avoir. Ce qui peut détruire un prince, selon Machiavel, c'est la renommée qu'il a. Or, il faut construire cette renommée. Et quand vous êtes au pouvoir, je crois que j'avais eu une question la semaine dernière où on avait parlé du problème de l'hypocrisie du prince, que c'était de toute façon c'était son intérêt qu'il cherchait et qu'il y avait une forme d'hypocrisie là-dedans. Et j'avais répondu, et c'est ça que je voulais un peu développer, qu'à partir du moment où vous êtes au pouvoir, l'imaginaire, toutes les valeurs idéales et imaginaires sont subverties en leur contraire. Je m'explique. Ce n'est pas moi qui le dis déjà. C'est Machiavel. Fin du chapitre 15, je vous lis. Parce que si l'on considère bien tout, donc quand on est prince, on trouvera quelque chose qui paraîtra vertu, mais en le suivant, ce sera la ruine. Et quelque autre qui paraîtra vice, mais en le suivant, il en résulte sécurité et bien-être. Donc, ce que Machiavel explique dans ce chapitre 15 et dans les autres, lisez les chapitres 15 à 19, c'est que, à partir du moment où vous êtes au pouvoir, si vous suivez par exemple de manière intangible un principe de justice, si vous essayez d'être le plus juste possible sans arrêt, humainement parlant, Et bien, du point de vue de l'image, vous pouvez être conduit à paraître comme un homme injuste et sanguinaire. L'image peut transformer complètement la réalité de l'opinion politique et même du champ politique lui-même. Je vais vous en donner un exemple. Au chapitre, et c'est là qu'on va commencer à s'intéresser un petit peu aux contradictions de ce livre. Début du chapitre 2 sur les principats héréditaires. Machiavel pose un certain nombre de principes sur les règles générales et sur ce que pense en général un peuple d'un prince nouveau. Je dis donc que dans les états héréditaires et accoutumés au sang de leur prince, il y a beaucoup moins de difficultés à se maintenir que dans les nouveaux, parce qu'il suffit seulement de ne pas passer outre les ordres de ses ancêtres et puis de temporiser face aux accidents. De telle manière que si tel prince fait preuve d'une industrie ordinaire, il se maintiendra toujours en son état s'il n'y a pas de force extraordinaire et excessive qui l'emplit. Et s'il en est privé, dès que l'occupant subit un désastre, il l'acquiert de nouveau. Quand vous êtes dans un principat héréditaire, dans Machiavel, il est très facile de maintenir ce principat parce que la nouveauté n'est pas tellement aimée du peuple. Le peuple a toujours peur, dit Machiavel, d'aller vers le nouveau. Chapitre 24. Les choses susdites, observez prudemment, dans ce chapitre, il parle de... ces choses observées prudemment, c'est tout ce qu'il a expliqué au chapitre 15-19 sur l'importance du paraître. Observez prudemment, font paraître ancien un prince nouveau et le rendent tout de suite plus sûr et plus ferme dans l'état que s'il y était depuis des temps anciens. Non, pas de paradoxe. Je vous relis un autre passage. Chapitre 3, je vous lirai aussi, et je vous relirai le chapitre 24, début du chapitre 3. Ces variations naissent d'abord d'une difficulté naturelle, qu'il y a dans tous les principes à nouveau, qui sont que les hommes changent volontiers de seigneur, croyant aller vers le mieux, et cette croyance leur fait prendre les armes contre celui-ci. Je vous relis le début du chapitre 24. Les choses susdites, observées prudemment, font paraître ancien un prince nouveau et le rendent tout de suite plus sûr et plus ferme dans l'état que s'il y était depuis des temps anciens. D'accord ? Donc, si vous maîtrisez votre image, c'est ça qui est violé. Vous êtes capable de transformer complètement les opinions qui circulent dans le peuple. Un peuple est capable d'apprécier, de rejeter spontanément la nouveauté pour des tas de raisons. Et il est capable d'apprécier la nouveauté spontanément pour des tas de raisons. Ça dépend de quoi ? De la maîtrise de votre image. Autre paradoxe du même genre. Je ne vais pas tous les citer, mais vous lirez dans le chapitre 3 et le chapitre 6 le rapport aussi à la nouveauté. Même paradoxe. Chapitre 3 et chapitre 6. Je vous laisse aller. Donc, je récapitule, la vertu exige avant tout de bonnes armes, une capacité d'anticipation et de lucidité, une capacité d'impétuosité pour être capable d'agir de manière radicale et une capacité de maîtrise de l'apparence. Alors maintenant, il faut... Ça, c'est la lecture explicite de Machiavel. Là, maintenant, j'aimerais vous faire réagir un peu. Est-ce que vous voyez dans Le Prince des exemples de personnes qui, aux yeux de Machiavel, incarnent vraiment cette vertu. Et qui cite particulièrement l'exemple? Qui admire-t-il? Concrètement parlant, pas d'un point de vue mythique, mais il y a un personnage réel qui force vraiment son admiration. Oui. César Borgia, tout à fait. Borgia. César Borgia. Alors, si vous avez lu, Machiavel est en fait très admiratif de ce personnage. Vraiment. Il lui prête toutes les vertus politiques. Il n'y a pas quelque chose d'étrange sur cet exemple? Si vous l'avez lu. Chapitre 6, essentiellement, consacré à César Borgia. Oui.
Et on va dire que c'est pas l'homme le plus vertueux au livre. Je ne sais pas si c'est ça.
Il applique à la lettre tout ce que définit Machiavel dans la vertu, là, que je viens de vous exposer. À la lettre. Oui.
En fait, le problème avec César Borgia, c'est qu'il s'installe non pas avec. Quand il arrive au pouvoir, c'est pas grâce à lui, mais c'est grâce à son père, en fait.
Oui.
Donc,
juste.
C'est exactement ça dans le chapitre où. Il parle du principe que normalement, quand on doit réussir à s'installer, c'est parce qu'on y est apprêté par nous-mêmes, donc soit par notre propre vertu, soit par notre propre fortune, mais que là, en fait, c'est lié à son père, je crois que c'est le pape.
Oui, tout à fait.
Et donc, là, c'est son père, justement, qui réussit à l'installer, mais après, c'est quand même César Borgia qui, en même temps intellectuel, réussit quand même, après, à reprendre tout ce que dit Machiavel. Donc, c'est au fur et à mesure. Réussi à avoir cette image de.
Alors, c'est vrai tout ça, mais comment se conclut le chapitre 6 et qui a échoué? Il a échoué. Donc vous avez le théoricien Machiavel du réalisme politique, autrement dit, soi-disant, celui pour qui la seule chose qui compte, quels qu'en soient les moyens, c'est de réussir. Et son exemple même de vertu politique, l'homme qui l'admire le plus, est un homme qui échoue. Un peu étrange quand même, non? Oui?
Non, c'est un peu parce que justement il a trop reposé, il me semble
que
ça,
j'ai pas compris, pardon.
Il s'est trop reposé en fait sur sa fortune, il me semble quand il fait le choix du pape, je ne me souviens plus, je crois que c'est Jules II.
Oui.
Il me semble que moi, c'est ce que j'ai compris. En gros, il est tellement aveuglé et tout, qu'il a une bonne fortune. Au final, il devient aveuglé par sa propre fortune. Et alors, que normalement, il devrait être censé changer, continuer donc, dans cette impétuosité à renouveler son.
Mais c'est pas ça qu'il faut se servir.
Et tu dis, vous croyez que c'est ça, c'est le fait de choisir le mauvais.
C'est la mort d'un personnage. Et sa propre maladie, à César Borgia, dit Machiavel. Chapitre 6. Alors, je reviens sur cet exemple. On peut discuter, mais à mon avis, il me semble quand même, ça me semble étrange, pour si Machiavel est le théoricien du réalisme politique, de montrer que celui qui incarne vraiment ça, c'est un homme qui, en tout cas, à ses yeux, n'a pas réussi. On pourrait y revenir. Il y a un autre exemple dans Le Prince, qui suit d'ailleurs directement celui-ci, chapitre 8, je crois, d'un personnage qui se comporte trait pour trait exactement comme César Borgia. Qui? Est-ce que vous voyez, si vous l'avez lu? Comment? J'ai pas entendu. Non. Alors, il le cite en exemple avec Borgia au début du chapitre, mais en fait, il. Oui? Oui, mais dans les exemples contemporains. Enfin, non, pas contemporains, c'est une bêtise, mais. Il est très pour très comme César Borgia dans ses actions. Chapitre 8, Agathoc. Vous regardez. Alors, c'est pas du tout la même période. Agathos fait exactement pareil, à tout point de vue, hein, que César Borgia. Il est calculateur, il est sans scrupules, il arrive à maintenir l'État quand il est attaqué, et en plus, lui, il réussit. Il réussit. Cayet Macalet, cet homme-là a été tellement violent que je ne peux pas accepter que cet homme-là soit un homme vertueux. Il s'est comporté avec tant de scélératesse que je ne peux pas accepter que cet homme-là soit un homme vertueux. Et là, Machiavel fait une distinction extrêmement importante. Est-ce que vous voyez laquelle? Est-ce que vous voyez ce passage déjà d'Agathos que je vais vous lire? Oui, donc c'est très loin d'être contemporain, parce que Agathos de Sicile, je suis en train de dire, c'est 360-288 avant Jésus-Christ. Donc, je vais faire un tout petit peu de complet. Agathos de Sicile, de fortune non seulement privée mais très basse et méprisable, devint roi de Syracuse. Celui-ci, né d'un potier, mena toujours sur l'échelle de l'âge une vie scélérate. Néanmoins, il accompagna ses scélératesses de tant de vertus d'esprit et de corps, que s'étant tourné vers la milice, au fil des rangs de celle-ci, il parvint à être prêteur de Syracuse. Établi en ce rang, et ayant décidé de devenir prince, et de tenir avec violence et sans obligation envers autrui ce qui lui avait été accordé de plein gré, et à propos de son destin étant d'intelligence avec Hamilcar de Carthage, lequel servait en Sicile avec les armées, il rassembla un matin le peuple et le sénat de Syracuse comme s'il avait eu à décider des choses relatives à la République. D'un signe ordonné d'avance, il fit oxyre par ses soldats tous les sénateurs et les plus riches du peuple. Ceci mort, il occupa et tint le principal de cette cité sans aucune controverse civile. Et bien qu'il fût mis en déroute et finalement assiégé par les Carthaginois à deux reprises, il put non seulement défendre sa cité, mais ayant laissé partie de ses gens à la défense contre le siège, il attaqua l'Afrique et libéra Syracuse du siège en un temps bref, et conduisit les Carthaginois à une extrême nécessité. Et ils furent dans la nécessité de s'accorder avec lui, de se contenter de la possession de l'Afrique et de laisser la Sicile à Agathos. Je continue. Qui considérerait donc les actions et la vie de cet homme, n'y verra pas de choses ou peu qu'il puisse attribuer à la fortune, comme il est dit ci-dessus. Puisque, non par la faveur de quiconque, mais au fil des rangs de la milice qu'il s'était gagné au prix de mille désagréments et périls, il parvint au principat, auquel il se maintint ensuite avec tant de partis courageux et très, très, très périlleux. On ne peut pas non plus appeler vertu le fait de tuer ses concitoyens, de trahir ses amis, d'être sans foi, sans piété, sans religion, et ces manières peuvent faire acquérir le pouvoir. Il me semble que c'est le problème du prince, non? Comment acquérir le pouvoir? Mais voilà ce qu'ajoute Machiavel. Et ces manières peuvent faire acquérir le pouvoir, mais pas la gloire. Qu'est-ce que ça vient faire là? Depuis quand il se préoccupe de ça? Parce que si on considérait la vertu d'Agathos, lorsqu'il affronte et écarte les périls, et la grandeur de son esprit lorsqu'il supporte les triomphes des adversités, on ne voit pas pourquoi il devrait être jugé inférieur à n'importe quel capitaine. Capitaine, très excellent. Néanmoins, sa cruauté atroce et son inhumanité, ainsi que les infinis scélératesses, ne consentent pas à ce qu'il soit célébré parmi les hommes très excellents. On ne peut donc attribuer à la fortune ou à la vertu ce qui fut obtenu sans l'une ni l'autre. Vous lisez le chapitre sur Borgia, les actions de Borgia sont, allez, à peu de choses près, similaires à celles d'Agathos. Alors là, ça pose une question. Pourquoi Borgia est-il aussi vertueux aux yeux de Machiavel alors qu'il échoue? Et Agathos aussi peu vertueux aux yeux de Machiavel alors qu'il prend le pouvoir, il le maintient et il réussit exactement ce que définit Machiavel. Machiavel dit, on peut le considérer comme un capitaine très excellent, mais pas comme un homme très excellent. Est-ce que vous voyez... Oui. Tout à l'heure. Il y a quelque chose de ça. Mais c'est plus profond. Mais il y a l'idée de la trace qu'on laisse. Ça, c'est sûr. Mais pour pouvoir répondre, il faut qu'on réponde avec le texte. Est-ce que Machiavel fait une différence entre le capital excellent et l'homme excellent? Est-ce que vous voyez un passage du texte où Machiavel parle d'homme excellent? Non? Oui?
Quand il parle des différents fondateurs,
Exactement. L'homme excellent, dit Machiavel, est un fondateur. Un fondateur. Ni César Borgia, ni Agathoc n'ont été des fondateurs. Et qu'est-ce que c'est un fondateur? Oui?
Quelqu'un qui va fonder et assurer la pérennité de ce qu'il va fonder.
Un peu. Assurer la pérennité. Il y a une phrase de Deleuze sur laquelle je reviendrai. Il y a un cours excellent de Deleuze, passionnant, un peu compliqué, sur le web de Deleuze, qui s'appelle « Qu'est-ce que fonder ?». Vous pouvez regarder ça sur Internet. Le web de Deleuze, un cours de Deleuze, « Qu'est-ce que fonder ?». Et Deleuze a cette phrase, le fondateur, c'est pas forcément celui qui construit quelque chose d'absolument nouveau, c'est celui qui se réclame d'un fondement, dit Deleuze. Je vais y revenir. Qu'est-ce que c'est un fondateur? Alors, pour le comprendre, il faut qu'on parle de l'autre binôme du couple, c'est-à-dire l'infortuné. Donc, là, on va en parler un petit peu, ou j'accélère un peu, pour vous laisser la parole. L'infortune, là aussi, vous avez beaucoup d'éléments au chapitre 25. Je vais passer un petit peu plus vite, mais quand même vous donner les éléments principaux. Si vous lisez ce qui est dit sur l'infortune au chapitre 25, dès le début, vous constaterez plusieurs choses différentes. L'infortune, elle est d'abord associée. Je lis. Je n'ignore pas que beaucoup ont eu et ont l'opinion que les choses du monde sont gouvernées par la fortune et par Dieu. Allons-y. La fortune, c'est la fatalité divine. De telle manière que les hommes ne peuvent, avec leur prudence, les corriger, qu'au contraire, ils n'y ont aucun remède. Et pour cela, ils pourraient juger qu'il n'y a pas à se chiner beaucoup sur les choses, mais à se laisser gouverner par le hasard. Allons-y, la fortune, c'est le hasard maintenant. C'est plus la fatalité divine, c'est le hasard. De notre temps, on a plus cru à cette opinion. Allons-y, la fortune maintenant, c'est une opinion. Et le chapitre continue, et sur quelques pages, Machiavel finit par dire que la fortune, c'est finalement. C'est pas quelque chose, c'est pas une force positive, c'est pas une force en elle-même, c'est uniquement la force qu'on lui prête. La fortune ne peut s'exprimer, dit Machiavel, que là où il n'y a pas eu de vertu suffisamment grande pour anticiper les effets de la fortune. Et même, on appelle parfois fortune, dit Machiavel, un hasard qui viendrait expliquer nos échecs. La fortune, c'est une opinion, bref, on met un peu ce qu'on veut dans la fortune. On met ce qu'on veut et elle n'a pas d'autre force que celle qu'on lui prête. Ça, c'est le premier temps du chapitre 25. vous allez jusqu'à toujours au chapitre 25. Machiavel termine un paragraphe en disant « Et je veux qu'il me suffise d'avoir dit cela quant à l'opposition à la fortune en général. » Et puis après, il passe au détail. Et qu'est-ce qu'il dit ? Je vous laisserai lire après cette remarque. Dans le chapitre 25, il dit « Oui, mais on constate aussi que des personnes d'une vertu absolument équivalente, qui se sont comportées exactement de la même manière, ont pourtant obtenu des résultats différents. Bref, tout dépend en fait de cette fameuse qualité des temps. Autrement dit, vous pouvez bien faire ce que vous voulez, la fortune quand elle est là, il n'y a rien à faire contre, et cette fois-ci c'est une force positive, de contingence. Une force présente, pas seulement celle qu'on lui prête, mais une force réelle. Donc, d'un côté, cette fortune, elle désigne tout ce que l'homme ne parvient pas à inscrire dans le cadre de ses représentations, tout ce qu'il ne parvient pas à prévoir, tout ce qu'il ne parvient pas à imaginer. Et du coup, il lui prête un peu n'importe quel nom. Et puis d'un autre côté, elle désigne aussi donc, une espèce de force positive, vraiment présente, réelle, contre laquelle il n'y a rien à faire. D'un côté, la fortune c'est une, n'a que la force qu'on lui prête, et puis d'un autre côté, c'est une force en elle-même, quand même, une force en soi. Autrement dit, elle désigne deux choses, la fortune. Elle désigne, en effet, la contingence propre à la réalité, mais elle désigne aussi le rapport que nous avons à cette contingence. Et vous lirez ce chapitre 25, c'est flagrant. On passe d'une fortune qui n'a que la force qu'on lui prête à une fortune qui, de toute façon, sera décisive en toute chose, quelle que soit votre vertu. Je vous laisserai lire. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? La fortune est à la fois... la force propre de la contingence et le rapport que nous avons à cette contingence. Et bien, un concept qui est là encore tout à fait fondamental chez Machiavel, celui qu'on a c'est le concept d'occasion. La fortune, c'est une puissance réelle et l'expression de cette puissance dépend intégralement, selon Machiavel, de ce que le prince est capable de voir en elle. S'il est capable ou non de transformer cette fortune en occasion. Et du coup, je reviens maintenant à cette question de l'homme excellent et du fondateur. Parce que là, on va pouvoir expliquer ce que c'est qu'un fondateur pour Machiavel. La figure de l'homme excellent et du fondateur, elle revient au chapitre 6, c'est ça, et au chapitre final du livre, où Machiavel appelle un fondateur pour l'Italie. Et dans les deux cas, il a une même expression. Je vous laisserai lire. Le fondateur, dit Machiavel, c'est celui qui donne une forme à la fortune. Donner une forme. Il a la même expression à la fois dans le chapitre 6 et dans le chapitre 26, allez, je vous le lis, comme ça, j'ai oublié de le croire. Ayant donc considéré toutes ces choses dont on a discouru ci-dessus, et pensant en moi-même qui présentement en Italie courait des temps propres à honorer un nouveau prince, et s'il y avait matière, qui donna à un homme prudent et vertueux l'occasion d'y introduire une forme qui lui fasse honneur et fasse du bien à la communauté des hommes de celle-ci. Donner une forme. Alors là, aussi, il va falloir qu'on comprenne. Et on va revenir au chapitre 6. Au chapitre 6, Machiavel parle de... Moïse, Cyrus, Romulus, Thésée. Qu'est-ce qui constituait pour ces hommes une occasion, dit Machiavel. Je lis. Il était donc nécessaire à Moïse de trouver le peuple d'Israël en Égypte esclave et opprimé par les Égyptiens, afin qu'ils se disposent à le suivre pour sortir de la servitude. À vouloir qu'il devienne roi de Rome et fondateur de cette patrie, il convenait que Romulus ne trouva place en Âne, et fut exposé à la défense. Il fallait que Cyrus trouva les Perses mécontents du pouvoir des Mèdes, et les Mèdes mous et efféminés par la langue perse. Thésée ne pouvait manifester sa vertu sans trouver les Athéniens dispersés. Vous retrouverez ces presque mot pour mot au chapitre 26 ces exemples avec les mêmes qualificatifs. Qu'est-ce que c'est qu'une occasion de fonder pouvoir? C'est un moment où un peuple est esclave, dispersé, opprimé. Non, je crois que c'est ça. Esclave, dispersé, opprimé. Les mêmes qualificatifs reviennent dans le chapitre 26, au chapitre 6 et au chapitre 26. Donc, donner une forme à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en tout cas c'est l'interprétation que je propose, à travers une valeur, quelle qu'elle soit, unir ces gens pour ne plus qu'ils soient dispersés. Les unir aussi pour arrêter l'oppression. Et surtout, les rendre libres. Ils sont esclaves. Peu importe par quelle valeur vous réalisez cela. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est que vous donniez une forme à cette dispersion, à cet esclavage, à cette oppression, pour que justement ça ne devienne plus oppression, esclavage et dispersion. Donner une forme à travers un lien collectif. C'est pour ça que le concept d'occasion, alors c'est pas Machiavel qui le définit comme ça, mais ce que je voudrais proposer comme définition, le concept d'occasion, à mon avis, c'est le moment où les hommes sont disposés à accueillir et à participer à une institution nouvelle du vivre ensemble. Et il faut quelqu'un qui propose une forme pour réaliser cela. Et non pas une forme qui consiste justement à prendre le pouvoir pour assurer son petit intérêt personnel comme Agathocle. Et non pas seulement comme César Borgia, quelqu'un qui est vertueux, qui est extrêmement vertueux, mais qui n'a que la vertu du capitaine. Et qui n'est pas suffisamment vertueux pour faire perdurer cette forme au-delà de lui. C'est pour ça que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. La question de faire perdurer, de maintenir ce lien, de maintenir ce vivre ensemble, de maintenir l'état, même après votre mort. Et c'est là que ça m'amène à une deuxième chose sur la figure du fondateur, et je terminerai par là. Pour revenir à la citation de Deleuze, dont je parlais tout à l'heure. Le fondateur, dit Deleuze, c'est celui qui se réclame d'un fondement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le fondateur, c'est quelqu'un qui prétend représenter un idéal qui est au-delà de lui, dont il est le représentant pendant un moment, mais qui est au-delà de lui et qu'il essaie de réaliser. Et pourquoi, me semble-t-il, ce point est extrêmement important chez Machiavel? Ça va me ramener là aussi à une question qui m'a été posée la semaine dernière sur le rapport entre la fortune et le fait, l'étude des grands hommes de l'histoire. Il y a un passage étrange, chapitre 6 à nouveau, je crois. Je vais vous le lire. Dans ce chapitre 6, Machiavel veut nous parler des principats qui s'acquièrent avec les armes propres et la vertu. Je vous lis le premier paragraphe. Que personne ne s'étonne si lorsque je parlerai des principats entièrement nouveaux, et quant au prince et quant à l'État, j'allèguerai de très grands exemples. Parce que les hommes, cheminant toujours sur les voies battues par d'autres et procédant dans leurs actions par imitation, comme on ne peut suivre entièrement les voies des autres, ni atteindre la vertu de ceux que tu imites, un homme prudent doit toujours s'engager sur des voies battues par de grands hommes et imiter ceux qui ont été très excellents, afin que, si sa vertu n'y arrive pas, au moins en rende-t-elle quelque odeur. Et faire comme les archers prudents qui, le lieu qu'ils ont le dessein de toucher leur paraissant trop loin, et connaissant jusqu'où va la vertu de leur art, place le point de mire beaucoup plus haut que le lieu destiné, non pour atteindre une telle hauteur avec leurs flèches, mais pour pouvoir, à l'aide d'un si haut point de mire, parvenir à leur dessein. Est-ce que l'un d'entre vous comprend le but de ce paragraphe ? Machiavel, il est dans la définition du réalisme de la vertu. Des principats qu'on acquiert, dit-il, avec les armes propres et la vertu. Est-ce que vous comprenez à quoi sert cette métaphore des archers ? Est-ce que vous avez entendu à quoi elle servait dans ce que je disais ? Oui ?
Ce que j'ai compris, c'est que la vertu, si on l'a, c'est bien, mais en politique, ça ne fait pas vraiment tout. Donc il faut viser plus haut, un point plus haut de ce qu'on a envie. D'atteindre, puisque si on vise vraiment le point qu'on a envie d'atteindre, on ne pourra jamais l'obtenir. Parce que la vertu qu'on va utiliser pour atteindre ce point, elle va s'épuiser, 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 et donc à tomber au bout d'un moment. Alors que si vraiment on vise plus haut, la vertu qu'on va utiliser pour atteindre ce point, elle va s'épuiser elle aussi, mais moins vite, puisqu'on va utiliser plus haut.
D'accord.
On va utiliser plus d'énergie dans
le monde. Mais vous avez vu tout ça dans ce que j'ai lu ? Qu'est-ce qu'on atteint en faisant ça ? Qu'est-ce qu'on atteint en suivant un idéal comme ça, en visant plus haut que ce qu'on cherche ? Machiavel dit on peut atteindre son dessein, son projet. Il ne dit pas quoi, il ne dit rien. Par contre, il dit autre chose. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Qu'est-ce qui se passe quand on imite quelqu'un de grand ? Vous n'avez pas entendu ? Oui.
Même si on se met sur le plan, on va quand même donner l'image d'avoir suivi son chemin.
Okay. Afin que si sa vertu n'y arrive pas, au moins en rende-t-elle quelque odeur. Donc, là, c'est pas très explicite. Mais sur la référence historique. Mais il y a un autre passage du prince, chapitre 14, qui nous donne l'exacte réponse à cela. C'est le dernier, la toute fin du chapitre 14. Et justement, Machiavel parle de l'étude des grands hommes dans l'histoire. Je vous lis ce qu'il écrit. Il vient de parler de l'art de la guerre, là, tout le long. Dans le chapitre 14, c'est l'art de la guerre. Vraiment. Mais quant à l'exercice de l'esprit, le prince doit lire les histoires et considérer en celles-ci les actions des, on les retrouve, hommes excellents. Voir comment ils se sont gouvernés dans les guerres. Examiner les causes de leur victoire et de leur défaite. Pour pouvoir faire celle-ci et imiter celle-là. Et surtout, faire comme a fait, dans le passé, quelqu'un excellent qui a pris en imitation un homme qui, avant lui, a été loué et glorifié, et de celui-ci a toujours tenu auprès de lui les gestes et les actions, comme on dit qu'Alexandre le Grand imitait Achille, César, Alexandre, Scipion, Cyrus. Et quiconque lit la vie de Cyrus, écrite par Xénophon, reconnaît ensuite dans la vie de Scipion combien cette imitation lui fut glorieuse et combien dans la chasteté, la familité, l'humanité, la libéralité, Scipion se conformait aux choses qui avaient été écrites sur Cyrus par Xénophon. Qu'est-ce qui se passe là? Quel est l'intérêt de cette lecture des hommes excellents? Est-ce que vous l'avez entendu et compris dans ce que je dis? Oui. La lignée. La lignée imaginaire. Il y a eu Alexandre, il y a eu Cyrus. Si j'arrive, du point de vue de mon image, à m'inscrire dans cette lignée, eh bien, je porte un idéal qui est au-delà de moi, et en même temps, je le prolonge, mais à ma manière. Je fonde quelque chose. Je prolonge quelque chose. Alors, vous me direz, prolonger et fonder, pas tout à fait pareil, mais ici, c'est pas la fondation, c'est le fondement. La question éthique, l'idéal. Et donc, à mon avis, ces hommes excellents, quelle est leur force? Ils sont tous armés. Ce sont tous des capitaines très excellents. Tous. Ça, c'est certain. Mais ça, c'est la fondation. Mais le fondateur, c'est autre chose pour Machiavel. C'est celui qui, dans cette fondation, établit un fondement. C'est celui qui, au-delà de ça, comme le disait Deleuze, se réclame d'un fondement. Qui va s'inscrire, dont l'image va s'inscrire dans un idéal qui, non seulement fait référence à de grands hommes, mais qui propage aussi une certaine idée du politique à travers ces images. Et qu'est-ce que ça fait tout ça, dit Machiavel, ça c'est chapitre 6, ça donne une forme. Ça donne une forme au vivre ensemble. Ça propage quelque chose qui est autre chose que la simple gestion du rapport de force, comme le médecin qui anticipe, que le simple acharnement de l'homme impétueux. Il y a autre chose là-dedans. Il y a le fait aussi de donner une forme au vivre ensemble, d'empêcher l'oppression, de renouer avec la liberté et surtout d'unir. D'unir. Et je rappelle, là, ce que j'avais entendu aussi par unité, parce qu'il y avait une très bonne question qui m'avait été posée à ce sujet, pas d'unir dans l'homogénéisation des personnes comme dans une dictature, mais lié par un lien symbolique, si on peut dire, par des mythes communs, par un même idéal, par quelque chose qui crée un lien, qui crée une union dans le vivre ensemble et qui empêche la dispersion, la division, voir l'oppression, pourquoi, quand naît l'oppression? À partir du moment où vous ne maintenez l'union des gens qui sont en rapport que par la force. Donc, cet aspect du fondement, évidemment, il n'est pas le seul chez Machiavel. L'aspect éthique n'est qu'un aspect du politique. La force est aussi essentielle. Mais les deux ne sont pas dissociables, à mon avis. Et c'est pour ça que la lecture réaliste de Machiavel, à mon avis, est insuffisante. Elle est insuffisante parce que la lecture réaliste, elle ne prend en compte que le capitaine, pas l'homme excellent. Et Machiavel met en valeur l'homme excellent. Pourquoi est-ce qu'il condamnerait la violence d'Agathocle alors que cette violence lui a permis de prendre le pouvoir et de le maintenir? Si c'était la seule préoccupation de Machiavel, aucune raison de condamner Agathocle. Ne me croyez pas sur parole, lisez. Moi, c'est mon interprétation du texte, mais comme toute interprétation, elle est assez faible. Donc, regardez ces chapitres et voyez si vous observez des contradictions entre les exemples et les incohérences. Et à mon avis, là, il y a un lien extrêmement fort entre cette distinction un peu, je ne sais pas comment dire... Peut-être un peu naïve que j'ai faite au début entre la fondation et le fondement, mais à mon avis, là, elle est très parlante. La fondation et le fondement sont essentiels. Il est essentiel de les conserver liés. Parce que s'il n'y a que la fondation, très bien. Vous garderez le pouvoir le temps de votre vivant. Mais le vivre ensemble sera détruit dès que votre personne disparaît. Bien, j'ai un peu, excusez-moi, et je vous invite à réagir.